Docteur Tourecki, bonjour.
Bonjour.
J'ai dit plein d'autres choses parce que votre CV est assez fourni, je dirais. Vous travaillez à la banque de cerveau, oui, de l'Institut universitaire en santé Douglas, qui a comme spécialité la recherche sur le suicide. Vous êtes plongé tous les jours sur cette problématique qui est majeure, évidemment. Et tout à l'heure, au cours de la journée, quand j'exposais à mes collègues et à mes amis le sujet du jour, ben, je parle de prévention du suicide. Évidemment, les visages se déforment un petit peu, des moues plus soucieuses. Bon, on n'aime pas parler de ça. C'est un sujet qui est délicat, c'est un sujet qui est lourd. Quelles sont les données les plus récentes, les plus probantes en matière de prévention du suicide?
Bon, d'abord, c'est important d'en parler. C'est important de démystifier les suicides et enlever les préjugés qu'on a normalement vis-à-vis la maladie mentale et les suicides comme conséquence de la maladie mentale. Donc, c'est important toujours de garder en tête que le suicide est un phénomène qu'on peut prévenir, on peut aider les gens à risque et minimiser leur risque de suicide. Donc, comment le faire? Ben, il y a plusieurs façons de le faire. Une, c'est sûr, c'est de démystifier, aider les gens en démystifiant les suicides. On aide les gens à aller chercher de l'aide quand ils en ont besoin. Deuxièmement, c'est de vulgariser, en fait, les facteurs de risque, les problèmes et aider les systèmes de santé, aider les médecins à mieux faire un dépistage des gens à risque et par la suite de mieux donner les traitements quand nécessaire.
Mais ça, c'est assez intéressant parce que l'on a parlé dans les derniers mois de l'accès aux soins, beaucoup notamment à l'accès à des psychologues, qui peut être un petit peu parfois plus ardu. Est-ce qu'il y a des solutions dans le milieu hospitalier pour faciliter, bon, on parle de psychologues, mais d'autres spécialistes de la santé qui agissent en santé mentale et qui seraient là pour offrir de l'aide plus rapidement aux gens dans le besoin?
Ouais. Ben, effectivement, ce n'est pas un secret, on a de la difficulté au niveau du système. L'accès, ce n'est pas toujours évident. Malgré ça, des services existent. Il y a des services, pas seulement des services médicaux, il y a des services communautaires qui aident les gens en crise. Les services sont là disponibles. Les problèmes suivants, c'est que les gens qui ont besoin d'aide, ils ont accès aux services, mais les intervenants, les médecins, ne reconnaissent pas toujours les gens à risque.
Oui, les signaux d'alarme.
Voilà.
Hein? Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'une personne est à risque d'avoir des comportements suicidaires?
Bon, donc, d'emblée, le risque majeur est associé à la maladie mentale et surtout à un tableau dépressif.
Ouais.
Donc, c'est la présence d'un tableau dépressif qui est souvent associé avec les gens à risque. Et avec les tableaux dépressifs, on va voir normalement le développement des idées suicidaires. Parfois, ces tableaux dépressifs va débuter d'une façon très vite et avec ça vient des idées suicidaires très intenses.
Oui.
Donc, il n'y a pas une règle spécifique. Malheureusement, c'est du cas par cas.
Oui, et c'est ce qui fait qu'il faut être encore plus attentif, j'imagine, encore plus de bien observer tous ces signaux-là. Ce qui vous intéresse, je pense, vous, d'entrée de jeu, ben, en fait, ce qui vous intéresse dans votre recherche, c'est de savoir comment certaines personnes dépressives n'ont pas de pensées suicidaires et d'autres vont en avoir. Est-ce que vous avez réussi à élucider cette question-là?
Mais en fait, la plupart des gens qui ont tableau dépressif ont des idées suicidaires. Oui, parfois, ils vont les avoir carrément, très clairs, et ça qu'on appelle des idées suicidaires actives, avec un plan, avec une intention suicidaire. Et parfois, ils ont des gens qui ont de ce qu'on appelle des idées suicidaires passives, c'est-à-dire ils ont le désir de mourir, étant donné la souffrance qui est présente avec un tableau dépressif, mais ils n'ont pas nécessairement les idées plus structurées pour aller faire quelque chose.
Ce qui vous intéresse aussi, Dr Tourecki, en tant que co-directeur de la Banque de cerveau de l'Institut universitaire en santé mentale Douglas, c'est de comprendre comment le cerveau change à travers un épisode dépressif. Est-ce qu'on a des réponses par rapport à ça?
Mais on a des pistes.
Ouais.
C'est sûr que nos émotions sont codées dans notre cerveau. C'est-à-dire que quand on parle, quand on sent, etc., notre cerveau va changer d'une façon dynamique. Tu sais, et nous, on s'intéresse à voir, bon, quand quelqu'un devient très dépressif au point de penser à la mort et de vouloir mourir, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de ces gens? Est-ce qu'il y a des changements qui sont spécifiques à ce type de pensée? C'est sûr que le cerveau est un organe qui est très complexe, qui on connaît très, très peu de son fonctionnement.
Et qui est en mouvance constamment. Hein?
Constamment. Donc, c'est un organe plastique, on dit, qui adapte constamment à l'environnement. Et sa fonction, c'est d'apprendre, n'est-ce pas? On connaît très, très peu. Par contre, il y en a de certaines pistes, tu sais, des altérations qui changent avec une tableau dépressive, ainsi que des choses qui changent pendant la vie qui peut mener la personne plus à risque.
Donc, le vécu d'une personne.
Voilà.
Donc, à ce moment-là, les événements du passé, on pourrait penser à des épisodes de violence, différents abus, tout ça, une enfance plus difficile, ça ferait partie du tableau qui pourrait mener à des comportements suicidaires.
Absolument. Donc, le suicide, c'est un phénomène complexe, la façon comme on le voit. C'est-à-dire que il y a des gens qui ont certaines prédispositions. Ils ont des facteurs, soit des facteurs au niveau de la famille, tu sais, qui ont une histoire familiale plus lourde pour le suicide, ou ont vécu des choses dans leur vie qui l'amènent plus à risque de se suicider. Ça ne veut pas nécessairement dire que les gens qui ont une histoire familiale de suite vont se suicider, non plus que les gens qui ont vécu des expériences difficiles
bien
vont
sûr
se suicider. Ouais, mais c'est un risque. Ouais, donc, c'est vraiment un risque statistique. Il y a d'autres facteurs aussi qui amènent les gens plus à risque. Quand les gens qui sont à risque, en plus, deviennent dépressifs, et avec la dépression, ont des idées suicidaires, donc ce sont des gens qui ont un risque plus accentué d'avoir des comportements suicidaires, sur des faire tentatives de suicide.
On parle de facteurs héréditaires, de facteurs biologiques, psychosociaux également. Il y a aussi, et bien sûr, vous me corrigez si je me trompe, des facteurs environnementaux. On sait qu'au Québec, il y a un taux de moins en moins, par chance, mais un taux assez élevé de suicide, notamment chez les hommes, plus qu'ailleurs dans le monde. On explique ça comment?
Mais écoutez, il y a des facteurs qu'on appelle individuels, c'est de la personne, oui. Donc, c'est biologique, c'est-à-dire, bon, dans les cerveaux, c'est biologique, c'est, et l'histoire de vie a un impact, il y a un dialogue constant entre les cerveaux et la personne. Donc, il y a des facteurs individuels de la personne, il y a des facteurs sociaux, oui. Donc, il y a des choses qui se passent dans la société, dans un certain moment historique, qui amènent plus de stress dans la société. La façon comment on comprend, c'est que c'est une combinaison. Ouais? Donc, quand il y a une situation de plus de stress dans la société, les gens qui sont plus à risque, qui ont des vulnérabilités individuelles plus élevées, donc sont des gens qui sont plus vulnérables donc, à agir d'une façon ou de manifester un comportement suicidaire ou de devenir déprimé, etc. Donc, c'est une interaction entre ces deux facteurs. La façon comment on comprend les différences, parce que c'est pas stable avec les temps.
Ouais.
Ouais? Donc, les taux de suicide changent avec les temps. Ils changent aussi dans des pays pendant les temps.
Des périodes de temps
voilà.
aussi. Donc, ça peut être intéressant même d'étudier le volet historique à quelque part et voir qu'est-ce qui s'est passé dans un pays ou une région donnée à tel moment et voir les impacts sur la santé mentale de la population.
Absolument, absolument. Donc, il y a des gens qui font ça. Il y en a aussi, clairement, des changements dans les taux avec les temps, dans des régions du monde aussi.
Je me demande, Dr Toriki, bon, si le cerveau change et se modifie sans cesse, et qu'il change notamment quand une personne vit un épisode plus dépressif, est-ce que cette personne-là, bon, même suite à sa guérison, lorsqu'elle va mieux, va rester fragile face à la dépression, à la maladie mentale et au suicide?
Donc, ça dépend. Oui, il y a des gens, effectivement, qui vont rester avec une certaine fragilité associée, par exemple, au tableau dépressif. Donc, soit que la dépression va revenir avec les temps, Donc, il va y avoir des épisodes récurrents, on appelle, ou même que peut rester avec une tableau chronique dépressive.
Mm-hmm.
Donc, il y a cette possibilité, mais il y a aussi clairement une grosse majorité des gens qui vont s'en sortir, que l'épisode dépressif va être guéri et que par la suite, ne vont pas nécessairement avoir une récidive. Par mm-hmm. contre, la vulnérabilité individuelle peut rester et dépendamment de qu'est-ce qu'on parle. T'sais, donc, si on parle de facteurs de risque comme familiaux, de facteurs de vécu de la personne, ben, ça demeure jusqu'à un certain point. T'sais, on peut toujours travailler, on peut aider la personne, mais on peut pas nécessairement complètement effacer et éliminer les facteurs de risque.
Quelle est l'attitude à privilégier lorsqu'on approche une personne qui vit un épisode dépressif, a des comportements suicidaires?
Ouais. Donc, d'abord, le plus important, c'est aider cette personne à avoir accès aux services. Ouais, parce que...
Rapidement,
si c'est sûr qu'il faut aussi avoir en tête que la grosse majorité des gens qui ont un tableau dépressif ou même qui font des tentatives suicidaires ne vont pas décéder par suicide. Ouais? Donc, c'est qu'une minorité. Donc, les jugements, c'est un jugement clinique que la personne, les spécialistes, va faire. Ouais? Ça ne veut pas nécessairement dire que s'il y a un tableau dépressif, que nécessairement la personne va se suicider ou qu'il y a
un particulièrement, risque pour sa vie, oui,
particulièrement
oui.
Plus à risque.
Uh-huh.
Donc, par contre, les gros problèmes, c'est que souvent, comme je disais avant, les gens, à cause du stigma, à cause des préjugés, ou à cause pour une façon de penser que dit, ben, tu sais, il faut étouffer ça, il faut être dur,
il faut être plus fort. Oui.
C'est une rationalisation qu'on dit, tu sais, comme si amène tout à penser que c'est une question de caractère, je suis triste, je suis déprimé, c'est parce que j'ai une faiblesse de caractère. Ça,
voilà.
Ça, c'est vraiment une mauvaise compréhension de la situation. Et donc, les gens qui sont vraiment dédains, ils perdent un peu la perspective, ils ont une altération dans leur jugement et donc souvent ne vont pas aller chercher de l'aide. Soigner. Donc, les proches, je pense que le plus important, c'est d'encourager, soutenir les gens dans les processus, de valider les problèmes, n'est pas augmenter les préjugés, n'est pas augmenter les stigmas associés à ça.
Non, pas refouler le problème, mais le valider, je trouve que c'est un
ça.
Verbe qui a beaucoup de sens. Oui.
Et par la suite, on a un problème, de la même façon qu'on a un problème, mettons, c'est un problème physique, on va aller chercher de l'aide. T'sais, on ne va pas l'ignorer ou lui dire que ça va passer après, n'est-ce pas?
Oui. En terminant, on l'a mentionné souvent, vous êtes à la tête co-directeur de la Banque de cerveau du Douglas. Quel est le rôle de cette banque-là dans la recherche, dans la prévention aussi au suicide?
C'est un rôle énorme. Oui, c'est une banque de cerveau, c'est une source unique des tissus cérébraux pour les chercheurs en neurosciences. Les cerveaux, différemment d'autres organes, on ne peut pas aller prendre un morceau de quelqu'un qui est vivant. Ouais.
À éviter.
Ça, c'est à éviter absolument. Donc, la seule façon qu'on a d'avoir accès et étudier le cerveau, c'est de l'avoir après les décès. Ouais, donc, on est très chanceux d'avoir accès à cette ressource qui est vraiment unique dans le monde, qui nous donne la possibilité d'avoir du tissu cérébral, des gens qui ont été atteints de problèmes de santé mentale, de maladies mentales, et qui se sont suicidés, et par la suite, aller pouvoir étudier, trouver des pistes pour pouvoir mieux soigner un jour et développer de nouveaux traitements. Donc, c'est un processus à long terme, mais sans ce type de ressources, on va arriver jamais.
Oui, non, c'est ça. Et on continuera à avoir des journées mondiales de prévention du suicide. On parle quand même de 3000 cerveaux, là. Vous ne travaillez pas avec tous ces cerveaux quand même, là.
Non, donc la banque de cerveaux, il y a 3000 cerveaux qui sont de différentes causes. Il y a des cerveaux des gens qui sont décédés avec maladie d'Alzheimer, de Parkinson, mm-hmm. c'est pas seulement du suicide.
Neurodégénérative aussi.
Neurodégénérative, donc, et de plusieurs maladies. Toutes les maladies qui touchent le cerveau, on a de spécimens dans la banque.
Ah oui.
Et la banque, donc, ce qu'il fait, c'est qu'il fournit du tissu pour des chercheurs au Québec, au Canada et au monde. Donc, on fournit plus de 1000 échantillons de cerveau par année pour la recherche un peu partout. Comme je disais, c'est vraiment une ressource très unique.
Mm-hmm. Et merci de le faire et merci d'avoir été là, Dr. Gustavo Tourecki. Je rappelle, vous êtes co-directeur de cette banque de cerveau. On peut aller sur le site du Douglas pour en savoir davantage. Également directeur du département de psychiatrie, Université McGill. Merci, au plaisir.
Merci.